France Inter. Le 18-20. Fabienne Sintès.
Alors c'est fait, l'épilogue d'un parcours parlementaire et politique qui aura duré 2 ans. Les débats qui ont précédé ce vote ont été bien plus longs, parfois houleux. Cela dit moins que l'avait été le débat sur le mariage pour tous. Mais donc la PMA pour toutes est adoptée depuis hier soir. Désormais les femmes célibataires et les couples de lesbiennes ont le droit de bénéficier de dons de sperme. C'est aussi la fin d'une grande hypocrisie et d'une sélection par l'argent, puisque les femmes qui souhaitaient avoir un enfant hors d'un parcours d'infertilité, le seul autorisé, avait le recours de le faire en Espagne, au Royaume-Uni ou ailleurs. Après les premières grossesses avant la fin de l'année, comme l'a dit Olivier Véran, ça n'est pas encore tout à fait sûr. Comment cette ouverture de la PMA va-t-elle se traduire sur le terrain? Combien de femmes supplémentaires seront demandeuses? Que disent les chiffres de dons de sperme? Que disent-ils surtout sur leur insuffisance avec un obstacle supplémentaire dans la loi? Désormais, il est inscrit la fin de l'anonymat du don. Alors il n'est pas question d'aller sonner à la porte des donneurs en disant « bonjour papa ». Ce sera évidemment bien plus réglementé, bien mieux étudié, mais peut-être que cela peut faire reculer certains donneurs. On en parle en tout cas ce soir. PMA pour toutes, mais pas toutes à la fois. C'est le téléphone sonne, soyez les bienvenus.
Le téléphone sonne. 01 45 24 7000.
Et le premier, c'est vous Jérôme, bonsoir, bienvenue. On vous écoute, Jérôme. J'espère que vous avez un kit main libre, parce que vous me semblez être un peu sur la route.
Absolument, oui, j'ai un kit main libre.
Allez, on vous écoute.
Bonsoir à tous. Oui, c'était juste pour apporter un témoignage, parce que j'ai été donneur de sperme quand j'avais 45 ans, après avoir lu un article dans Libération qui parlait du manque de donneurs. Et mon épouse, à l'époque, avait accepté que je fasse cela. Mais c'est vrai qu'avec ce qu'amène la nouvelle loi, je ne vous cache pas que je ne serai pas donneur à nouveau, parce que dès l'instant où il y a la levée de l'anonymat, non pas, je trouve tout à fait fondée la recherche des origines des personnes, mais dès l'instant où il y a la possibilité de cette recherche des origines, je considère que mes propres enfants, je dois avoir également recueilli leur consentement pour être donneur, une fois qu'ils sont majeurs. Or, le troisième de mes enfants a été majeur le mois dernier. Et donc, ça veut dire que je ne m'imagine pas donneur à 60 ans. Mmh. Voilà.
Donc, vous ne le referiez pas aujourd'hui, en fait
dans les nouvelles circonstances, je ne le referai pas.
Eh ben, c'est une bonne entrée en matière, Jérôme. Merci beaucoup. On va bien sûr en discuter ensemble et pour partager cette discussion avec nous, Sandrine Trichard est là. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes cofondatrice de l'association des Matricas qui milite pour l'égalité d'accès à la santé reproductive. Et bonsoir, François Olivaine.
Bonsoir.
Vous êtes gynécologue, obstétricien, spécialiste des traitements de l'infertilité. Forcément, ce problème, il va se poser. Je vais vous poser la question d'ailleurs à tous les deux. Je commence avec vous, Sandrine Trichard. Qu'est-ce qu'on dit au futur Jérôme, en quelque sorte, qui n'aura pas 60 ans, mais un peu moins.
Alors déjà, il ne pourra pas.
Et qui aura cette... Voilà, puisque lui, Jérôme, ne pourrait pas. C'est pour ça que je parle du futur Jérôme. Et qui aurait cette hésitation. D'abord, comment on lui dit que... Pourquoi on le met dans la loi, ça, en fait?
La levée de l'anonymat, ouais. Aujourd'hui, c'est une vraie avancée pour tout le monde. Hein. C'est inscrit déjà au niveau européen. C'est des directives qui sont déjà menées dans plusieurs pays. Il était logique que la France, aujourd'hui, puisse également lever l'anonymat sur les donneurs de gamètes. Donc ça, c'est une très bonne chose, finalement, parce que la recherche et la quête d'identité chez ces enfants, c'est important pour leur développement. Donc ça, c'est une vraie avancée. Après, c'est vrai que le sujet, c'est cette inquiétude que peuvent avoir aussi les donneurs. Nous, on avait mené une étude là, très récemment avec l'IFOP auprès des Français. Ils nous disaient à 70% qu'ils n'étaient pas prêts à donner leur gamète, en fait, si leur identité était révélée aux 18 ans de l'enfant qui était conçu grâce à leur génétique. Donc, on comprend, évidemment, ça pose un problème. Après, on espère qu'il y aura quand même encore quelques donneurs qui pourront effectivement faire cette démarche.
Est-ce qu'on peut expliquer ?
On n'est pas certain quand même, parce que les pays, les deux pays pionniers par exemple, que sont la Suède et l'Angleterre, sont des pays où se sont posées les mêmes questions que nous il y a une dizaine d'années, un peu plus je pense. Et en fait, il y a eu une petite baisse initiale des dons, et ensuite... Ils ont même eu plus de dons, parce que paradoxalement, il y a quelques hommes qui ne donnent pas de sperme parce que c'est anonyme.
Non, ouais, c'est vrai.
Donc on ne sait pas très bien ce qui va se passer en France. La France est un pays un peu particulier, donc on n'en sait rien. Mais je crois qu'il ne faut pas être forcément si inquiet que ça, et il faudra observer ce qui va se passer.
Ça veut dire que ça mérite je le dis vraiment très sérieusement, ça mérite une bonne campagne de pub, ça mérite une vraie belle explication, en fait, non seulement sur comment ça va se dérouler, mais surtout sur pourquoi c'est important que ce don ne soit pas anonyme, Sandrine Trichard.
Ouais, aujourd'hui, il y a une vraie méconnaissance du don de gamètes. On en parlait tout à l'heure avant l'émission. Sur le nom déjà gamète, est-ce que les gens savent ce qu'est un gamète? On ne sait pas. Il faudrait effectivement faire de l'éducation et peut-être très jeune. Mais effectivement, c'est un vrai sujet. Les campagnes aujourd'hui d'appel à dons autour des gamètes, elles existent, mais elles ne sont pas assez fortes. Oui. On a du mal à mobiliser. Si on veut aujourd'hui si on veut que l'accès à la PMA soit réel pour toutes les femmes dans ce pays, il faut mettre les moyens de faire des campagnes d'appel à dons massifs auprès des personnes qui sont ciblées. On ne peut pas donner, effectivement, après un certain âge. C'est entre 18 et 45 ans, il me semble, pour un homme, 18 et 37 ans pour une femme. Tout le monde ne peut pas donner ces gamètes.
Et je pense qu'il faut faire... C'est pas la même chose de donner du sperme et de donner des ovocytes. Les campagnes qui sont faites, elles sont peut-être pas assez visibles. Et n'oubliez pas aussi que souvent on sollicite les gens qui ont besoin d'un don de gamètes pour essayer de faire autour d'eux appel à don. Et ça, justement, comme on a entendu tous ces gens qui sont contre l'ouverture de la loi, qui était, puisque maintenant elle est passée, et tant mieux. Je vous rappelle qu'en Belgique, on fait ça depuis 1983. On a mis presque 30 ans à passer ce cap. C'est quand même hallucinant. Et il faut pas oublier que ces femmes seules, ces femmes homosexuelles, elles pourront solliciter autour d'elles des hommes pour faire des dons et alimenter la banque. Et peut-être qu'elles auront beaucoup plus de facilité que les autres, et peut-être qu'on aura des donneurs. Mais quand on discute avec des gens...
Est-ce qu'on leur conseille d'ailleurs, François Oliven, si vous l'avez, venez avec votre donneur? Pardon de le dire comme
Bien sûr, c'est pas ça, mais il y a eu même une époque, je ne sais pas si c'est encore le cas, où le délai n'était pas le même quand un couple venait sans donneur et venait avec donneur. Évidemment, c'était pas 5 ans et 2 mois. Mais disons qu'il y avait une incitation à aider la banque à trouver des donneurs. Elle va toujours exister. Le problème, c'est quand on discute avec des gens de ces centres d'études, les SECOS, qui sont les banques de sperme.
Centre de conservation des œufs et du sperme.
Oui, ils semblent pas avoir un énorme problème tellement de paillettes. Ils ont un problème de personnel. D'ailleurs, dans cette loi, un des gros problèmes qu'il va y avoir, c'est il y a des aspects qui sont réservés au public, on ne sait pas pourquoi, la conservation des ovocytes. Là, les banques de sperme, c'est que les SECOS. Et s'il n'y a pas une vraie campagne pour donner du personnel aux gens, eh ben cette loi ne sera pas appliquée. Et moi, je serais curieux de voir dans un an combien de femmes, par exemple, auront pu conserver leurs ovocytes, ou combien de banques de sperme auront pu faire face à la demande supplémentaire de ces femmes.
Du coup, est-ce que vous dites il faut augmenter les capacités des SECOS, ou est-ce qu'il faudrait même ouvrir qu'il y ait d'autres centres? Parce que là aussi, ça fait partie des débats, il y a des choses qui existent dans d'autres pays, avec des centres privés, ce qui amène même d'ailleurs aussi à des dons qui sont payants, ce qui pour l'instant est exclu de la loi. Mais est-ce qu'on dit pour l'instant, il faut que les SECOS aient la possibilité, donc avec du personnel effectivement, de recevoir plus de monde, ou est-ce qu'il faudrait qu'il y ait plus de lieux, plus d'endroits, Sandrine Trichard?
En fait, il faudrait plusieurs choses. Il faudrait tout combiner. Non, mais c'est une réalité, c'est qu'aujourd'hui, les SECOS, il y en a 31 en France. Si vous habitez à Pau et que vous êtes très généreux et que vous avez envie de faire un don de gamètes, il vous faut aller à Bordeaux ou à Toulouse, donc 2h30 de voiture. Ça, la réalité. Donc aujourd'hui, ça, c'est quand même compliqué. Demain, la loi prévoit, dans le cas de certains déserts, que les ARS puissent potentiellement permettre à un hôpital public, etc. Bon, c'est compliqué. Le plus simple, ça serait, il y a 100 centres de PMA en France. L'idéal, ça serait surtout de pouvoir encadrer pour tout le monde, que tout le monde puisse en fait recueillir des dons et les conserver, pour permettre en fait à un maximum de donneurs déjà de pouvoir préserver.
L'évolution vers des banques comme on en trouve au Danemark ou aux États-Unis n'aboutira jamais en France, parce que D'abord, c'est un pays, je vous le disais tout à l'heure, on a mis 30 ans à autoriser les femmes à avoir des banques ouvertes. Ouais. Certainement, il nous faudra 60 ans de plus. Malheureusement, je serai pas là pour faire le téléphone sonne.
Allez savoir.
Deuxièmement, on a un cadre du don d'organes en France qui est extrêmement strict. Et le don de gamètes est assimilé au don d'organes. Il doit être gratuit. Donc, je pense que ça sera extrêmement compliqué de faire évoluer ça. Et c'est dommage, d'ailleurs.
Est-ce que, on le sait, parce que j'imagine qu'on en a une vraie idée, il y a eu des modifications qui ont été faites, combien potentiellement de demandes supplémentaires dans une année ? Est-ce qu'on sait ou pas du tout ?
Pas du tout.
Les chiffres ne sont pas... on les connaît pas. Il y a eu des études, mais des études qui ont été menées auprès de quoi ? Une trentaine de centres de PMA à l'étranger. En Espagne, il y a plus de 300 centres aujourd'hui qui accueillent des Françaises. Donc, les chiffres, en réalité, on les connaît pas. Effectivement, il y avait cette étude de la Croix qui a été menée en janvier 2020, je crois, ou 2021. Enfin, il y a déjà un an. Il y a 2500 femmes qui partiraient à l'étranger. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a 5000 couples hétérosexuels qui font une demande en moyenne chaque année pour un don de gamètes. Donc on dit qu'il y a au moins potentiellement 50% de demandes en plus. Mais en fait, on n'a pas ces chiffres-là. On sait que la demande va forcément augmenter, mais de combien ?
Enfin, moi j'ai le sentiment de ma propre expérience d'une personne quand même militante depuis longtemps sur cette loi, et je reçois peu de personnes. Donc peut-être parce que c'est interdit, mais l'idée que le monde, la société va être changée, ça n'a aucun sens. Donc cette demande, on ne peut pas la chiffrer, mais ça va pas être 30 000 couples l'année prochaine, couples ou femmes seules qui vont avoir besoin d'un don de sperme.
Je vous pose la question parce qu'on parle effectivement de ces causes qui sont trop éloignées, etc. Oui. Le tout, c'est qu'on a besoin, on en a pas forcément besoin de beaucoup, beaucoup plus, mais en tout cas d'une meilleure proximité. C'est ça que j'entends, en fait.
Et surtout qu'ils aient des moyens de recevoir les gens, parce qu'aujourd'hui, ils ont beaucoup de problèmes pour recevoir les gens, parce que un séco, c'est pas seulement, il y a un médecin, il y a un psychologue. Donc c'est beaucoup de personnel, parce qu'il y a une démarche quand même avant d'accéder au don de sperme qui est quand même réglementée.
Qu'est-ce qui s'est passé pendant la période du confinement, par exemple ? Parce que ça nous donne une bonne idée. Alors évidemment, ça a été fermé pendant un bout de temps, j'imagine. Est-ce que les dons sont repartis ou pas du tout repartis ? Donc on se dit que pour l'instant, il n'y a pas eu de démarrage non plus. Est-ce qu'on sait ça ou pas du tout ?
Non, il faut demander les chiffres.
Il faudrait demander aux gens des Sécos.
Ou à l'agence de biomédecine.
Toute l'activité d'assistance médicale à la procréation a été stoppée pendant 2 mois et demi. Et c'est reparti. On a un peu tous le sentiment que c'est reparti doucement, que peut-être les gens ont encore un petit peu peur de se lancer, mais on a quand même une activité qui a repris.
Il y a Florian qui veut revenir sur cette histoire d'anonymat et qui nous dit sur franceinter.fr « Je m'étais porté volontaire pour faire un don de sperme, mais avec la levée de l'anonymat, j'ai changé d'avis », dit-il. Alors on a bien compris effectivement qu'il fallait peut-être du temps aussi pour que tout cela rentre. Moi j'aimerais qu'on explique aussi aux gens comment ça va se passer, parce que je le disais tout à l'heure en introduction, il ne faut pas que les gens s'imaginent que des gamins de 18 ans vont frapper à leur porte en disant « Bonjour, je suis ton fils ou je suis ta fille ». Comment ça se passera lorsque un jeune adulte à 18 ans aura l'envie de connaître son donneur. Comment ça va se passer concrètement ? Comment ça marche avec la commission d'accès aux origines ? Comment tout ça va se mettre en place ? Allez-y, pardon, comme vous voulez, Sandrine Trichard.
Je connais pas les détails précis de il va y avoir donc, comme vous venez de le dire, cette commission qui va mettre en contact.
D'accès aux origines.
Ouais. Mais la levée de l'anonymat, il faut pas croire que pour le donneur de sperme, ça va être que quand il aura 18 ans, il va être en charge de ses études supérieures, de lui acheter une voiture, etc. C'est pas du tout ça. C'est que, en fait, il va y avoir la possibilité pour l'enfant d'avoir des informations déjà non identifiantes sur son donneur, et ensuite de proposer d'établir un contact entre eux. Maintenant, après, comment ça va se passer dans le détail, je ne suis pas sûr que ça soit mentionné dans la loi, il va y avoir des décrets d'application, mais dans certains pays, par exemple, il est proposé qu'un contact soit établi, mais que ça soit la liberté du donneur, et ça ne peut pas en être autrement,
absolument,
d'avoir une relation avec cet enfant. Donc il ne faut pas non plus imaginer que si on a une levée d'anonymat, ça veut dire qu'on s'engage à s'occuper de cet enfant à sa majorité.
Donc
c'est pour ça que dans les pays où ça a été autorisé, finalement la bonne explication de ce que ça, de ce qui incombait aux donneurs, a fini par donner plus de dons qu'avant, que sous la période de l'anonymat.
Et c'est important de dire ces choses-là, Sandrine Trichard, en tout cas pour pas que les gens effectivement s'imaginent que juridiquement ou je ne sais quoi, il y a un intermédiaire.
Alors ça reste, il reste géniteur, ce ne sont pas des pères.
Exactement.
Voilà, donc ça c'est très important. Après effectivement, et puis tous les enfants qui sont issus d'une PMA avec un donneur vont pas tous effectivement vouloir connaître l'identité de leur géniteur. Ils vont avoir effectivement ces données qui sont non identifiantes, mais il faudra qu'ils, enfin, ils devront faire la démarche s'ils souhaitent recueillir en fait les informations identifiantes de leur donneur. Donc on va pas leur donner tout d'un coup à 18 ans, voilà l'identité, voilà l'adresse,
voilà l'adresse, le numéro de téléphone,
etc. Il faut que ça soit une démarche aussi proactive de l'enfant.
Est-ce qu'on sait quel est le stock aujourd'hui? Je veux dire, est-ce qu'on revient donc en arrière? Est-ce qu'on appelle ces gens en leur disant vous avez donné votre sperme à telle date? Attention, la loi a changé. Désormais, il pourrait y avoir il y a levée d'anonymat. Donc, est-ce qu'on le conserve ou pas? Et comment ça va se passer, ça?
Bah, c'est ça, en fait. Le gouvernement se laisse un an. C'est ce qui est prévu dans la loi. C'est-à-dire que la levée de l'anonymat rentrera le premier jour du 13e mois d'entrée en application de la loi. Et donc, on va laisser un an aux Sécos le soin de contacter tous les précédents donneurs pour savoir s'ils veulent ou non lever l'anonymat sur leur don.
Mais s'ils disent non, ça veut dire que on détruit.
La vraie question, c'est qu'aujourd'hui, alors, détruire toutes ces paillettes. Enfin, je trouve ça extrêmement triste, très dommageable quand on voit aujourd'hui la difficulté que les couples ou les femmes seules, enfin tout le monde.
Mais je pense qu'on peut pas demander à un homme qui a fait un don. Avec le principe d'anonymat et lui dire écoutez on se fiche un peu de votre avis et on utilisera les paillettes quand même, ça c'est pas possible.
Non,
aucune loi ne peut être
rétroactive.
Donc on est obligé d'être dans cette situation.
Mais du coup, ça va prendre énormément de temps. Là, encore une fois, les Sécos ont besoin d'hommes et d'humains pour pouvoir faire ce travail-là. Si ce travail n'est pas fait, effectivement, à la fin de cette année, qu'est-ce qui va se passer en fait? Qu'est-ce qu'on va faire de ces gamètes? Comme la question aussi se pose de l'entrée en application de la loi, là, est-ce qu'on va encore autoriser des dons anonymes ou pas?
On aura aussi le problème, c'est un petit peu en marge de votre émission, sur la préservation de la fertilité. Vous savez que c'est quand même un sujet clé de cette loi. Les femmes vont pouvoir, pour convenance personnelle, conserver leurs ovocytes. Et le gouvernement, pour des raisons complètement invraisemblables, a limité cette possibilité aux centres publics qui sont déjà noyés de demandes. Donc je dis, ayant été successivement moi-même dans le privé, dans le public et dans le privé, pourquoi le privé n'aurait pas pu faire la conservation des ovocytes? Rendez-vous dans un an ou dans deux ans, voyons combien de femmes ont demandé la préservation et combien ont pu l'avoir. Je pense qu'on va avoir de sérieuses surprises s'il n'y a pas vraiment un effort fait dans le personnel des centres publics.
En parlant de délai, quand aujourd'hui, pour l'instant, donc couple infertile, on fait une demande, ça dure
un an environ.
C'est ça, un an, 12 mois,
un an un peu plus. Et ça dépend des caractéristiques physiques des couples, bien sûr, parce qu'il y a des donneurs qu'on appelle caucasiens. C'est plus facile à trouver que si vous avez, par exemple, un couple asiatique où il y a très peu de dons. Donc, ça dépend de ce qu'on appelle le phénotype de la personne. Mais en général, pour les couples caucasiens, c'est un an. Pour les couples d'autres origines, c'est beaucoup plus compliqué. Mais quand même, si vous allez par exemple en Belgique, vous avez un don de sperme en 3 mois, quelle que soit votre origine d'ailleurs. Peut-être un peu plus compliqué quand on est asiatique. Donc il va toujours y avoir ce problème de la concurrence des options à l'étranger.
Est-ce qu'on va à un moment se poser la question d'une priorité ou en tout cas de couper en deux, pardon de le dire comme ça, la file d'attente des couples infertiles, la file d'attente des femmes seules ou des couples lesbiens?
Non.
Ou est-ce que tout le monde sera premier arrivé, premier
enseigne.
Servi quoi, même
oui.
enseigne exactement
oui.
C'est ce qu'on dit,
hein.
Les Sécos.
Voilà,
si on s'inscrit,
si c'est
dans
la loi, ce serait très vite attaquable pour discrimination.
Pascal nous demande ceci, que recommanderiez-vous aujourd'hui, au moment où on se parle, à une femme seule ou à un couple de femmes qui s'engagerait dans un parcours de PMA? Est-ce que, au fond, il sera plus rapide d'aller à l'étranger aujourd'hui encore, ou est-ce que nous serons capables d'aller nous aussi vite, rapidement?
Le ministre et plusieurs autres personnes ont déclaré que des bébés
première
pourraient
grossesse
être...
fin d'année,
oui.
Très ambitieux.
Ouais. Ce serait formidable.
Oui, ça serait formidable.
Donc dire à cette personne, si c'est aujourd'hui à l'heure du téléphone sonne, je pense que ça ira beaucoup plus vite d'aller à l'étranger. Je pense que dans 2-3 mois, quand tout sera mis en place, si les décrets vraiment sortent, et si tout est possible, on va très vite avoir une idée. Aujourd'hui, il y a un an d'attente pour une banque de sperme, donc par définition, ça ne va pas se réduire. Donc ça dépend aussi de l'âge de la femme, hein, parce qu'il ne faut pas oublier que l'âge... Un an d'attente quand on a 38 ou 39 ans, c'est un vrai problème.
Oui, absolument. Mmh. Dominique, décidément, l'une des vraies questions sur le don anonyme, c'est de savoir ce que dira la loi sur le droit à l'héritage. À ma connaissance, dans les pays où le don n'est pas anonyme, la possibilité d'exclure un héritier enfant né par don de sperme existe, mais pas en France. Est-ce qu'on peut là aussi tordre le cou à ce genre d'idée reçue? Le donneur, l'enfant n'hérite pas de son donneur. Enfin, c'est pas du tout comme ça que ça se passe.
Et l'enfant, même s'il tentait qu'on pouvait prouver qu'il a été conçu par un don de sperme, il héritera du père qui l'a élevé, quoi qu'il arrive.
À quel âge, à votre avis, dit-on à un enfant la manière dont il a été, j'allais dire, fabriqué? Et justement, j'ai envie de dire, pour éviter ce genre de situations qui peuvent être des situations difficiles au moment des 18 ans et avoir dans la tête autre chose qu'un donneur, de la part du donneur. Comment ça se passe, ce genre de choses?
Beaucoup des psys qui sont intéressés à ça considèrent que c'est important de le dire... dès que l'enfant est en âge de comprendre, le plus tôt c'est le mieux. C'est pas la réunion à 18 ans, coucou chérie, on te l'a jamais dit. Ça. Mais au fait, papa n'est pas ton papa. Donc, mais il y a quand même, je pense aujourd'hui, pas mal de couples qui font des dons et qui restent avec le souhait de ne pas le dire. Mmh. Donc, il faudra aussi peut-être faire un effort. Est-ce que la levée de l'anonymat a changé quelque chose? Il faudra peut-être faire un effort d'explication, mais il y a des couples qui ne souhaitent pas dire à leur enfant qu'ils ont eu recours à un don de gamète, même si beaucoup de psychologues pensent que c'est souhaitable.
J'ai donné mes ovocytes, nous dit Sophie sur franceinter.fr, c'était il y a 3 ans, et je le referai avec le même enthousiasme. C'est un don altruiste, et de savoir que l'anonymat élevé ne me dérange pas. Est-ce qu'il y a une vraie différence homme-femme sur la crainte de l'anonymat ou pas? Vous sentez ça, vous, ou pas?
Nous, dans l'étude qu'on a menée, on a vu que c'était quand même 50-50, hein, aussi bien chez les hommes que chez les femmes. On n'a pas vu de différence, en tout cas.
On n'a pas fait d'étude, votre étude,
voilà,
c'est très intéressant.
Il
faut féliciter, comment elle s'appelle?
Elle s'appelle Sophie.
Il faut féliciter Sophie, parce que les femmes qui font des dons spontanés d'ovocytes, elles sont rares et elles sont précieuses, donc merci et bravo à Sophie. Et si d'autres femmes peuvent être encouragées, c'est quand même bien.
La différence, c'est quoi d'ailleurs entre les hommes et les femmes?
L'homme,
c'est tellement plus. Non, mais j'ai bien compris quelle était la différence. Je veux dire, mais sur le nombre de donneurs. Ah, est-ce que c'est 1 pour 10, un homme pour 10 hommes pour une femme?
Le don de vos sites en France est sinistré. Les Anglais disent le black sheep, c'est le mouton noir de tous les débats de la PMA. Il y a probablement plus de 10 ou 15 000 femmes qui vont chaque année à l'étranger pour faire des dons d'ovocytes. Évidemment, le don d'ovocytes est plus compliqué puisqu'il faut une stimulation et tout. Et le don d'ovocytes, c'est quelque chose auquel les femmes ont de plus en plus besoin parce qu'elles ont de plus en plus recours à la PMA tardivement et que la PMA, ça marche pas après 40 ans. Et que le don d'ovocytes, oui, mais le don d'ovocytes, c'est un énorme problème pour la France qui n'est jamais traité.
Bonsoir François.
Bonsoir Fabienne.
On vous écoute.
Oui, voilà. Donc j'avais une question. Je ne sais pas si elle est hors sujet ou pas. Je ne suis pas contre la PMA, bien évidemment. Je ne juge pas les gens. Voilà. Mais je me demandais pourquoi on ne faciliterait pas surtout l'adoption, et notamment pour les couples homosexuels, pour qui c'est encore plus dur, parce que c'est laisser des gamins sur le carreau. Et je me demande aussi si philosophiquement parlant, si je puis dire, c'est pas le stade ultime de la consommation, alors que, voilà, je vous répète, il y a des gamins qui n'attendent que ça, d'avoir un père, une mère, ou en tout cas un foyer, un père, une mère, ou deux mères, ou deux pères, voilà.
Merci beaucoup François et François Olivier a levé le doigt. Oui. L'autre François a levé le doigt.
Levé le doigt parce que voilà, ça fait 30 ans un peu plus que je fais ce métier et je crois que ce qu'il faut bien voir, c'est que tout particulièrement les femmes, mais les hommes aussi, ils ont envie d'avoir, par exemple, une femme a envie, par exemple, d'être enceinte. Et je crois que j'entends depuis toujours cet argument qui vaut ce qu'il vaut. Moi, je suis d'accord. avec l'idée que si on peut rendre service à ses enfants, d'abord, il faut savoir qu'en France, en tout cas, l'adoption, c'est très très compliqué. Il n'y a pas tellement d'enfants à adopter. Et deuxièmement, je crois que c'est pas exactement la même démarche et on peut pas sous-estimer le fait que, par exemple, une femme seule a envie d'être enceinte, a envie de porter un enfant, a envie de le mettre au monde. Et comme de temps en temps dans le don d'ovocytes, bah, l'homme, il a envie, s'il peut, être à l'origine de l'enfant.
C'est pas la même démarche.
Voilà, c'est pas la même démarche. Ouais.
L'adoption, c'est le point, enfin, je veux dire, c'est vraiment si on a tout essayé et qu'on a toujours ce désir d'enfant, on va sur l'adoption. Ouais. Et encore une fois, l'adoption aujourd'hui en France, elle est très difficile. Si vous êtes célibataire, même si la loi l'autorise depuis une centaine d'années, vous pouvez toujours attendre très très longtemps pour pouvoir adopter un enfant. On ne vous en donnera pas. Donc,
dans sa question, François, en creux, il y avait, parlait à un moment de consommation, j'entends en creux les inquiétudes sur ce qu'on a pu appeler le marché de la procréation, etc. Enfin, où nous emmène cette nouvelle loi? Est-ce qu'on a fermé cette porte à ces arguments-là?
On l'a pas fermé, mais vous savez, depuis 1930, quelle que soit la technique d'assistance médicale à la procréation, il y a toujours eu des gens qui ont mis en garde contre les dérives de cette procréation médicalement assistée. On est dans un pays, la France, qui a une régulation très forte. On a une loi de bioéthique, on a des instances. Et on a fait la même chose quand il y a eu le diagnostic génétique préimplantatoire. On a dit, oh là là, ça y est, les femmes vont pouvoir choisir la couleur des yeux de leur enfant.
Et donc, elles avorteront si les yeux sont pas de la même couleur, etc.
Tout le monde a des craintes. Et la réalité, c'est pas ça. La réalité, c'est que l'immense majorité de la procréation médicalement assistée se passe de façon extrêmement éthique. Il y a des pays où c'est une médecine commerciale. Mm-hmm. Je pense aux États-Unis, que je connais bien. Mais la France, c'est pas. On n'est pas les États-Unis et on a des garde-fous et c'est très bien encadré. Et je crois qu'il y a très très peu de dérives et il n'y en aura pas. Et
d'ailleurs, il y a cette question, j'allais dire question naïve, mais non, gentiment vraiment naïve de Nicolas, qui dit, est-ce qu'on peut simplement m'expliquer comment donner son sperme? Moi, j'ai 24 ans et je n'ai eu au fond aucune information. Est-ce que la difficulté d'accès à l'information ne pourrait pas être améliorée, nous dit-il?
On peut se présenter dans une banque de sperme, il donnera son sperme à un recueil par masturbation, on fera des examens pour s'assurer qu'il n'est pas porteur de certaines maladies. Et puis des enquêtes, certains tests, de renouveler une fois qu'il a donné son sperme. Et voilà, s'il est bien portant, on peut utiliser son sperme. C'est assez simple à faire, c'est un recueil de sperme dans un laboratoire qui prend une quinzaine de minutes, éventuellement renouveler pour avoir un certain nombre de paillettes. Mais effectivement, il a raison. Je pense que la preuve que ces campagnes d'information sont très mal faites.
Mais justement, revenir là-dessus, c'est très important.
Moi, je me souviens pas, en fait, d'avoir jamais vu une campagne d'information sur ce genre de sujet.
Moi non plus.
Ou peut-être aussi dans des abribus, il y a longtemps. Mais pourquoi on n'y va pas franchement? Est-ce que c'est parce qu'on est pudibon? Est-ce que c'est parce que le débat reste un peu touchy, même si, comme je le disais, il l'a été beaucoup moins qu'au moment du mariage pour tous, etc., qu'il n'y a pas une bonne vieille campagne de pub qui passerait à la télé, qui serait quelque chose qui serait vraiment visible par des millions de gens.
Très peu, c'est l'agence de biomédecine qui est en charge de ça. Il y a eu, même je me souviens, de spots à la télévision, mais très peu. Ça reste, effectivement, vous l'avez dit, et je pense que c'est vrai, un sujet un peu tabou. On le voit avec des couples qui font des FIV, tout ce qui est plus intraconjugal, et qui n'en parlent même pas à leurs amis, à leurs parents, on en parlait tout à l'heure. Donc ça reste un sujet tabou. Mais je crois qu'à l'occasion de cette loi, il faudrait peut-être que le ministère de la Santé imagine une campagne d'envergure.
Parce qu'il y en a tous les ans, l'agence de biomédecine, tous les ans, mène une campagne. En fait, c'est simplement qu'il faut donner les moyens à l'agence de biomédecine pour mener ces campagnes
de envergure.
Façon massive. Exactement, et d'aller cibler réellement les publics qui aujourd'hui peuvent faire un don. C'est ça aujourd'hui qu'il faut faire. Parce que voilà ce que dit Nicolas.
Nicolas, ouais.
Voilà, c'est super révélateur de, en fait, il y a plein de Français qui seraient tout à fait à même de faire un don, qu'on en a envie, mais ils savent même pas comment on fait, en quoi ça consiste, s'ils peuvent le faire ou pas, ils n'en savent
et
rien.
Et où, vous le disiez tout à l'heure, il faut trouver son sécos.
Il faut trouver son sécos,
il faut savoir où il est, et effectivement, ne pas renoncer quand on habite à Pau et que le prochain est à,
et
à Bordeaux,
long,
et que c'est pas si simple.
Même pour un don de sperme, enfin, c'est quand même long, il y a des examens à faire, il faut revenir plusieurs fois, enfin, c'est pas non plus
si
pas
facile.
Simple. C'est pas si facile.
Magali, bonsoir.
Bonsoir Fabienne.
On vous écoute, Magali.
Oui, bonsoir à vos invités aussi. Merci à vous pour vos émissions. C'est juste un petit témoignage. Ma fille a 16 ans aujourd'hui, donc elle est née d'un don de sperme. Ça s'est très bien passé. Elle a toujours été au courant hein, depuis qu'elle est bébé. Puis au fur et à mesure qu'elle grandissait, j'ai expliqué avec des mots un peu plus compliqués. Et donc là, on en parlait encore aujourd'hui en entendant vos informations. Et elle me disait que, bon, concernant l'identité du donneur, ça n'intéressait pas vraiment. À la limite, la seule chose qui pourrait l'intéresser, c'est le dossier médical, s'il y a des choses à savoir, de l'ordre de maladies à surveiller, des choses génétiques ou des choses comme ça, quoi. Voilà.
Mais peut-être qu'elle le saurait déjà, d'ailleurs, non, François Oliven, parce que s'il y a eu un problème...
Pas forcément, parce que évidemment, s'il y avait des données médicales inquiétantes chez le donneur, il n'aurait pas été retenu, premièrement. Ça. Mais je crois que je vous remercie beaucoup, madame, pour ce témoignage, parce que évidemment, il y a une très forte, même si je suis au fond de moi-même, je pense que la levée d'anonymat est une bonne chose pour les enfants qui le recherchent. Mais je pense que il y a évidemment les personnes qui sont dans leur recherche d'origine sont très médiatisées. Mais quand on discute avec les banques de sperme, déjà on ne sait pas vraiment quel est le pourcentage des enfants conçus par don de sperme qui recherchent leurs origines. Et voilà notre auditrice. Et le témoignage que beaucoup d'enfants... Alors évidemment, médiatiquement, il y a des gens qui ont fait beaucoup de bruit autour de ça, des livres, des émissions, des documentaires, mais on n'est pas du tout certain que tout d'un coup, des milliers d'enfants conçus par don de sperme et élevés dans une famille harmonieuse vont rechercher leurs origines. On n'en est pas sûr, même si c'est bien que ça soit une possibilité. Mais peut-être que des enfants n'auront pas le souhait et seront très heureux avec le père qui les a élevés.
Eh bien, comme sûrement l'écrasante majorité, effectivement, de ces enfants-là. Merci beaucoup, et c'est facile, donc profitez-en. Merci beaucoup à tous pour vos nombreuses questions. Portez-vous bien.